Le dispositif Click and Move, 241 millions de francs au service des jeunes de la province sud, 15 000 francs offerts pour pratiquer des activités sportives, artistiques ou culturelles. Il s'offrira cette année aux enfants de 5 à 10 ans pendant les vacances. Le salon des masters et de l'emploi a connu un vif succès aujourd'hui sur le campus de Nouville. Des étudiants demandeurs d'informations pour savoir comment poursuivre leur parcours. La Chambre territoriale des comptes publie son rapport de la gestion du SMTU de 2018 à début 2024, un rapport qui ne prend toutefois pas en compte les émeutes de l'année dernière et leur impact. La situation a changé pour le réseau Taneo. Santé, la lutte contre l'obésité chez les jeunes. L'agence sanitaire et sociale organisait les portes ouvertes de son centre d'éducation thérapeutique. Dans le Pacifique, la côte est de l'Australie se prépare à faire face au cyclone Alfred en approche de l'île continent. Pas de nouveau concours Livre mon ami cette année, faute de budget. Les jeunes de CM2 et de 6e pourront tout de même redécouvrir la sélection de livres de 2024. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Un porte-monnaie de 15 000 francs pour pratiquer des activités culturelles, sportives ou socio-éducatives, c'est ce que propose le dispositif Click and Move de la province sud. Après avoir été interrompu l'année dernière à cause des émeutes, il est reconduit cette année, Charlotte Coulson.
Avec plus de 300 organismes partenaires, ce dispositif permet aux jeunes âgés de 11 à 17 ans d'essayer la voile, le judo, le basket, la musique ou encore les échecs. En bref, un large choix d'activités mis à disposition des adolescents. Car en février 2023, le rapport provincial Bien dans mes claquettes dévoilait que 41% des jeunes ne font pas d'activité. Alors cette année, malgré les restrictions budgétaires, sa reconduction a été une priorité, comme l'explique Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
À l'échelle de la province, c'est 241 millions qui sont budgétés cette année. C'est une somme importante, mais c'est ce qui permet d'occuper nos jeunes en dehors, je dirais, des activités scolaires. On a en Nouvelle-Calédonie une partie de la jeunesse qui est sans activité, et parce qu'ils n'ont pas d'activité ni culturelle ni sportive, ben ils vont traîner entre eux, ils vont consommer de l'alcool, ils vont consommer de la drogue, et puis ben, inévitablement, ils vont commettre des actes qui ne sont pas acceptables. Donc l'objectif, ben, c'est de leur proposer l'activité à ces activités. C'est ce qui les permet de les occuper pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant leurs soirées. Et ça, c'était un vrai besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le document de l'État qu'il y a dans les négociations, la problématique jeunesse est un des leviers sur lequel l'ensemble des collectivités doit agir.
Et en 2023, 6625 jeunes ont pu profiter du porte-monnaie Click and Move. Ils étaient déjà 4733 en 2024 avant que le dispositif soit interrompu à cause des émeutes. Parmi eux, Yanis, âgé de 14 ans, qui a utilisé le porte-monnaie pour s'essayer à de nombreuses disciplines.
Avec Click and Move, j'ai payé le NSS. Après, avec l'argent qui me restait, j'ai décidé de faire la natation parce que j'aimais ça et qu'à plus petit, j'en faisais. Et cette année, j'ai dit à mon père et à ma mère que je voulais faire de la guitare au conservatoire ou autre part. Là, ça allège vraiment les factures parce que faire de la musique, c'est assez un petit budget quand même. Au moins, ça m'ouvre plein d'opportunités et avec mes copains, on peut se rejoindre à des endroits, faire du paintball, du handball et rigoler une journée. J'apprends tout. Si je veux, pendant les vacances, je peux aller faire un cours d'initiation à la voile, un peu de tout. C'est ça qui est amusant avec.
Et pour accéder au portail Click and Move, il suffit de se rendre sur le site de la province sud. À noter que cette année, le dispositif s'élargit également aux 5-10 ans qui pourront profiter du porte-monnaie, mais uniquement pendant les vacances scolaires.
L'Université de la Nouvelle-Calédonie organisait aujourd'hui son salon des masters et de l'emploi. L'idée était de réunir en un seul lieu sur le campus de Nouville le maximum d'informations avec des stands et des intervenants présents pour échanger avec les étudiants, aussi bien les formations après Bac plus 3 présentes à l'université que des professionnels, privés ou publics, des organismes d'accompagnement et même des structures qui peuvent proposer des stages, sans oublier des ateliers pratiques. L'affluence était forte dès l'ouverture.
On est venu voir du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire après nos études pour pouvoir avoir un travail ici. Moi personnellement, je voulais travailler en Nouvelle-Calédonie, alors c'est un petit peu plus compliqué. Comme j'ai pour projet de faire professeur de physique-chimie, je me suis renseignée comment je pouvais faire par d'autres alternatives ici sur le salon mon master.
Pour l'instant, ça va. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets en entendant tout le monde, donc je suis contente, ça va. C'est bien pour les jeunes et tout, pour qu'ils ont des idées, voir ce qu'ils veulent faire après leur licence.
On découvre un peu ce qu'il y a.
Mais surtout pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard.
Ben oui, c'est bon, comme ça au moins on découvre de nouvelles choses aussi au cas où.
C'est une bonne chose, ça nous permet de découvrir les formations, à nous former aussi.
C'est intéressant, il y a beaucoup de masters qui sont présents pour informer sur le contenu de leur programme. Aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues pour notamment postuler à un futur job. Oui, je trouve que c'est une belle initiative de l'université d'avoir organisé ce salon des masters.
Ça permet aux étudiants de rester sur place, de continuer leur cours et en même temps que ici des disponibilités, des personnes qui viennent pour eux directement sur le site, quoi.
Et pour un meilleur accompagnement, quoi de mieux que d'échanger avec des étudiants en master ou même des nouveaux diplômés, à l'image d'Idriel et d'Elijah.
Du coup, ici, c'est le stand des masters IPSI, donc Humanité, Ingénierie de projets socioculturels et interculturels. Et du coup, on est mobilisés sur ce stand pour présenter un peu ce qu'on fait. C'est la première année où ce master est ouvert. On échange sur l'interculturalité et c'est aussi l'occasion pour les personnes de pouvoir trouver des stages, prendre des contacts, répondre à leurs questions. Du coup, c'est une bonne initiative et on est tous heureux d'être là.
Ça vous fait quoi de vous retrouver là, derrière la table, à présenter votre formation ?
Ça va, enfin, on fait ça avec joie, donc c'est tranquille et c'est un cadre qui permet d'être à l'aise, quoi. On est là, on échange tranquillement autour d'un café, donc c'est cool.
Je viens d'obtenir mon Master 2 de biotechnologie et droit, mention en droit international. Avec mes amis, on est partis ensemble, mais on s'est jeté dans l'inconnu, quoi. Et je trouve que la démarche ici, c'est vraiment bien pour les étudiants. Parce que moi, à leur place, j'aurais aimé avoir cette chance aussi de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses aussi. Parce que l'inconnu, ça fait toujours peur.
C'est quoi que vous devez le plus souvent expliquer par rapport à ce départ ?
Là, depuis le début, c'est surtout les papiers à fournir. Les premières démarches les plus importantes à faire. J'ai pu aiguiller les étudiants comme j'ai pu, quoi. Moi, quand j'étais ici, c'était un peu galère, quoi. Et arrivé là-bas aussi, il n'y a pas tes parents derrière toi, t'es livré à toi-même. Et... Donc tu prends la réalité un peu en face, mais rien n'est insurmontable. Il faut juste y croire et bien se préparer, quoi.
Et il s'agissait de la deuxième édition de ce salon des masters et de l'emploi à l'université. Un rendez-vous qui se poursuivait jusqu'à 15h30 à l'UNC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
La Chambre territoriale des comptes publie son rapport sur la gestion du SMTU, le syndicat mixte des transports urbains. Un rapport qui examine toutefois la période de 2018 à début 2024 et qui ne prend donc pas en compte la crise insurrectionnelle de mai dernier et son impact sur le fonctionnement du réseau Taneo. Toutefois, la présidente du SMTU depuis 2024, Naya Wateo, tire tout de même plusieurs enseignements de ce rapport de la Chambre des comptes, même si la situation n'est plus la même.
C'est toujours important d'avoir de répondre et de prendre les sollicitations qui sont faites par un organisme comme la Chambre territoriale des comptes. C'est vrai que pour celui qui concerne le SMTU précisément, il couvre la période de 2018 à début 2024. Donc c'est vrai qu'avec une situation au 13 mai 2024 qui n'est pas intégrée dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes, mais pourtant que l'on souhaitait voir intervenir pour pouvoir amener aussi à certaines situations que l'on a dû avoir à gérer dans le cadre de la gestion et de la situation du SMTU après les exactions du 13 mai. Je pense notamment à tout ce qui relevait de la gestion des deux délégations de services publics qui ont été un véritable sujet aussi dans le cadre de ce rapport et surtout de l'investissement qui est porté par le SMTU dans le cadre de cet embêtement sur la voie réservée et sur les financements qu'il est nécessaire de pouvoir trouver pour pouvoir continuer à honorer cette dette qui aujourd'hui est à hauteur de 22 milliards que nous devons rembourser. Donc effectivement, un rapport qui qualifie la gestion du SMTU de saine, avec aucun manquement ou aucune fraude qui ont été révélées, tant mieux. Des recommandations qui, pour la plupart, ont déjà été mises en œuvre. J'ai tenu, dès ma prise de fonction en avril 2024, à pouvoir mettre en ordre ce qu'il était déjà possible de faire, notamment sur la partie réglementaire. Les événements du 13 mai nous obligent à organiser un échéancier avec des mesures qui vont être prises d'ici cette année, courant 2026, mais qui relève vraiment d'ajustement avec un plan d'aménagement. On est vraiment sur du fonctionnel.
La Chambre territoriale des comptes qui émettait dans son rapport une liste de 17 recommandations, des recommandations qui sont déjà ou qui sont en voie d'être mises en œuvre par le SMTU, même si, nous le disions, la situation n'est plus la même que sur la période où le rapport a été effectué. Dans l'actualité sociale, les inquiétudes de l'UTCFE-CGC. Dans un communiqué envoyé à ses adhérents, le syndicat revient sur les mesures envisagées par le gouvernement afin de réduire la masse salariale de la fonction publique. Lionel Sabot.
Parmi les propositions, la suppression ou le gel de 100 postes pour la collectivité Nouvelle-Calédonie, la diminution du point d'indice ou encore, et pour ne citer que celle-ci, la suppression ou réduction de la prime catégorielle. Dans ce communiqué, l'UTCFE-CGC indique que c'est ces propositions sont inacceptables et indique également, je cite, qu'une approche unidimensionnelle et punitive à l'égard de la seule fonction publique territoriale soulève des questions sur l'équité et la justice sociale de tous les Calédoniens. Le syndicat qui appelle le gouvernement à reconsidérer ces mesures et à engager un dialogue constructif avec les représentants de la fonction publique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La question du jour, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie sera capable de voter un budget avant le 31 mars? Si vous pensez qu'elle sera capable de voter un budget avant le 31 mars, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut associer la population et la société civile au débat sur le document sur l'avenir institutionnel proposé par l'État. L'APESA poursuit son action auprès des chefs d'entreprise en difficulté. L'association dédiée à l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë organisait lundi soir une rencontre avec des chefs d'entreprise, mais aussi des juristes, banquiers, avocats et autres assureurs et experts comptables. En 2024, l'APESA a pris en charge 44 chefs d'entreprise en grande difficulté mentale et économique contre 12 les années précédentes. Comment les accompagne-t-elle et quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent? Nous en parlerons demain matin à 7h30 avec Betty Levanquet, présidente fondatrice de l'APESA NC. Nous sommes au cœur de la semaine du 40e anniversaire de Radio Rythme Bleu. Je vous rappelle qu'elle se refermera samedi au terme d'une journée portes ouvertes dans nos locaux aux 4 rue de Sébastopol. Toute la journée de samedi, donc de 9h à 19h. 40 ans que nous déclinons aussi à l'antenne avec des jeux, des témoignages et des émissions spéciales. Mardi, dans le magazine Citoyen, nous avons retracé 40 ans de radio avec Christian Prost, Elisabeth Noir et Jean-François Baudin. Notez que cette émission sera rediffusée demain matin à 10h. Et il sera aussi question de Radio Rythme Bleu et de ses 40 ans dans les Jeudis de l'économie pour parler du modèle économique de la radio. Jean-François Baudin animera cette émission entouré d'Elisabeth Noir et de Christian Prost. L'actualité institutionnelle, il y a des fondamentaux non négociables. C'est ce que rappellent les partisans de la France au lendemain de la visite de Manuel Valls et de la publication du document d'orientation proposé par l'État. Elisabeth Noir.
Sonia Backès, Nicolas Mézenc, Gilles Brial pour les loyalistes et Virginie Rufnacht pour le Rassemblement ont participé ensemble aux discussions plénières avec le ministre des Outre-mer et les autres délégations calédoniennes. Et ils expliquent aujourd'hui qu'il faut dire la vérité aux Calédoniens et lever les éventuelles ambiguïtés. Ils saluent la présence autour de la table des indépendantistes de l'UCF Lenkès qui jusque-là refusaient la discussion et ils se félicitent du travail de concertation engagé par le ministre. Mais ils veulent être clairs et notamment sur la nature du document rendu public par Manuel Valls, les précisions de Virginie Rufnacht.
C'est tout sauf un procès-verbal, ça n'a été signé par aucun d'entre nous. C'est tout sauf un relevé de conclusion, comme le comité des signataires, par exemple, qui est écrit à plusieurs mains. C'est vraiment un document unilatéral de l'État qui fait la synthèse, enfin pour lui en tout cas, des hypothèses des uns et des autres, des indépendantistes et des partisans de la France, avec des points qui nous paraissent précis et d'autres qui nous paraissent plus imprécis, en tout cas sur nos positions. Et puis par ailleurs, évidemment, des choses avec lesquelles on est d'accord, puisque ce sont nos propositions à l'intérieur, et puis des choses avec lesquelles nous sommes totalement en désaccord. Donc il faut vraiment remettre dans son contexte ce document. C'est en aucun cas un document que nous avons validé. C'est une base d'hypothèses pour démarrer d'éventuelles négociations.
D'accord avec certaines dispositions, mais pas avec toutes. L'avenir de la Calédonie doit s'inscrire dans la France dans le respect des 3 référendums. C'est le point essentiel que soulignent les partisans de la France. Et Virginie Rufnacht précise les points sur lesquels il y a accord.
On est d'accord avec le fait qu'il faut respecter les 3 référendums. Nous sommes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il faut ériger en priorité la protection des Calédoniens, qui a grandement manqué, notamment au mois de mai. Nous sommes d'accord avec le fait que la démocratie et l'état de droit doit être aussi une priorité de l'État en Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qu'a indiqué le ministre dans son document. Nous sommes bien sûr d'accord aussi avec la place des provinces et la différenciation provinciale qui vaut une page entière sur une proposition que nous faisons avec les loyalistes. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous considérons que le ministre écrit effectivement ce qu'il faudrait. Il parle aussi de compromis politiques et plus d'accord. Nous sommes aussi conscients que l'accord est difficile aujourd'hui, que ce sera plutôt des compromis politiques, à condition que des concessions soient faites de part et d'autre, et du côté des indépendantistes notamment, qui pour l'instant n'évoquent absolument aucune piste en la matière.
Mais pour les partisans de la France, il y a des fondamentaux non négociables qu'ils vont défendre jusqu'au bout. Sonia Backès est revenue sur 3 éléments essentiels.
Ces trois fondamentaux, c'est le respect des trois référendums, évidemment, et en cela, c'est sans doute le chapitre sur lequel on a le plus à dire, puisque ce chapitre s'appelle « Le lien à la France ». Déjà, le titre même pose question. On n'en retrouve pas tout à fait notre proposition sur le droit à l'autodétermination. Bref, il y a des choses à dire. Le deuxième élément fondamental pour nous, c'est l'égalité. Et en cela, l'égalité entre tous, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un débat, parce que l'accord de Nouméa était très construit sur la base de le peuple kanak d'un côté, les autres communautés de l'autre, et on est convaincu que ça a contribué au clivage, et que si on veut un jour pouvoir construire un peuple calédonien, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les uns et les autres de chaque côté. Il faut qu'on arrive à construire un accord ou un compromis qui soit sur la base de tous les calédoniens égaux en droit et en devoir. Et en cela, ce qui est écrit dans le document nous va bien. Il n'y a plus cette primauté, en tout cas beaucoup moins que ce qu'il y a dans l'accord de Nouméa. Et le troisième élément fondamental, c'est les provinces. C'est aujourd'hui le moyen pragmatique de vivre ensemble. En réalité, c'est le moyen pragmatique que chacun puisse mettre en œuvre ce en quoi il croit, son projet de société, là où il est majoritaire, tout simplement.
Et d'ici le retour de Manuel Valls vers le 21 mars, les partisans de la France vont chacun de leur côté rencontrer leurs militants et sympathisants pour les informer de l'avancée et de la teneur des discussions.
Le FLNKS communique également au lendemain de sa convention qui se déroulait à Dimbéa, Jean-François Baudin.
Oui, Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union calédonienne qui assure l'animation du bureau politique du FLNKS, rappelle dans un communiqué que cette convention était une étape préparatoire pour les discussions, conformément à la motion du Congrès de Saint-Louis. Il s'agissait, rappelle-t-il, de clarifier le contenu des discussions, la méthode, le format et le calendrier. Entre la séquence parisienne et les discussions de la semaine dernière en présence du ministre des Outre-mer, le BP du FLNKS souligne un certain nombre d'objectifs atteints selon lui. L'État français est revenu dans son rôle d'équidistance, note-t-il. Le socle des discussions est bien l'accord de Nouméa. Les discussions politiques et institutionnelles se tiennent sur le territoire. Le passage en force est exclu et la recherche du consensus est une volonté manifeste. La méthode Valls est encourageante. Pour autant, le FLNKS restera vigilant, dit-il, sur la suite du processus. Il souligne que les orientations présentées par le gouvernement de la France n'engagent que l'État et il rappelle ensuite les points qui restent selon lui à clarifier, notamment que la trajectoire vers la pleine souveraineté doit être assumée par la puissance administrante. Le deuxième point porte sur la présence du président du FLNKS, Christian Théin, aux négociations et sur le traitement judiciaire de la situation de ce que le BP du FLNKS appelle les prisonniers politiques. Enfin, il souhaite la supervision de l'ONU durant toutes ces séquences de discussions et négociations. En conclusion, la convention d'hier a confirmé le mandat de discussion de la délégation politique du FLNKS, estime son bureau politique, mais les points qui restent incontournables devront être traités et trouver des réponses avant de s'engager dans la phase de négociation, conclut Dominique Fauchy au nom du bureau politique du FLNKS.
18h passées de 2 minutes, on va tourner une courte pause publicitaire avant de voir le reste de l'actualité. À tout de suite.
Boîte aux lettres inaccessible ? Optez pour la facture par email avec Calédonienne des Eaux. Recevez-la par email et soyez alertés pour les délais de paiement. Assurez-vous de toujours avoir de l'eau potable. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Michael Gineski.
À justice, la cour d'assises jugera dès demain la première affaire de sang de cette première session de l'année. C'est un homme de 38 ans qui sera dans le box des accusés et qui comparaîtra pour des faits de meurtre. Les faits s'étaient produits au Mont d'Or le 23 juin 2022. Les précisions de l'avocat général Philippe Faisandier.
C'est une sorte de querelle de voisinage à la tribu de Saint-Louis, avec un accusé qui avait beaucoup bu avant les faits et... Il semble qu'il y avait un conflit avec ses voisins et il a pris le fusil au petit matin. Il a appelé son voisin avec, semble-t-il, des noms d'oiseaux et des insultes qui ont fusé. Et lorsque le voisin est sorti de sa maison, il lui a tiré dessus à une distance d'une quinzaine de mètres et il l'a tué. L'accusé a été interpellé 2 jours après parce qu'il avait pris la fuite. Enfin, quand il... Et évoque sa journée qui a précédé les faits. Il indique qu'il avait bu au moins une bouteille de rhum, Donc il était probablement passablement alcoolisé.
L'avocat général Philippe Faisandier, l'affaire est prévue pour durer 2 jours. L'accusé encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. En bref, une évacuation sanitaire sur un paquebot sera effectuée par la SNSM ce soir vers 23h30 sur la petite rade à Nouméa. Dans la petite rade à Nouméa, pardon, le bateau effectuait un trajet en direction de Brisbane et il a donc été dérouté vers Nouméa pour des raisons qui restent à déterminer. Au chapitre religieux, le carême a débuté aujourd'hui. Pour les chrétiens, c'est une période de 40 jours qui permet de se préparer à la fête de Pâques. L'entrée dans le carême se fait le jour du mercredi des cendres. Les fidèles sont invités à participer à la cérémonie des cendres qui a lieu dans les paroisses de Calédonie. Une messe des cendres a débuté à 18h en la cathédrale de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouloupari, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Santé, c'est une maladie qui touche 3 fois plus de personnes en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. La journée mondiale de lutte contre l'obésité était célébrée hier. À cette occasion, l'Agence sanitaire et sociale a multiplié son travail de prévention. Aujourd'hui, elle ouvrait les portes de son centre d'éducation thérapeutique à destination des jeunes. Charlotte Coulson.
Près de 20% des adolescents souffrent d'obésité en Nouvelle-Calédonie. Le constat est alarmant pour l'Agence sanitaire et sociale qui a noté plusieurs fois l'urgence de la situation. Aujourd'hui, la structure ouvrait ses portes et à l'occasion, le membre du gouvernement en charge de la santé, Claude Gambet, est venu échanger avec le personnel. Pour lui, la prévention contre l'obésité doit être une priorité.
Nous venons de terminer les discussions sur les questions budgétaires. Donc, nous sommes confrontés à de gros soucis en la matière et que tout ce qui a trait à la prévention est vraiment un axe prioritaire de ma mandature à moi. D'autant que les conséquences de l'obésité, on les connaît, puisqu'à terme, ce qui se profile, ce sont certaines pathologies chroniques lourdes, comme l'insuffisance rénale, les cancers, les insuffisances cardiaques, des rétinopathies, etc. Alors, sans trop dévoiler certains travaux qui ont été opérés par la Chambre territoriale des comptes, l'impact serait entre 10 à 30 milliards en matière d'obésité.
Et le centre d'éducation de la SSNC existe depuis 25 ans maintenant, mais ce programme spécifique à destination des jeunes n'existe lui que depuis l'année dernière. C'est une prise en charge pluridisciplinaire, gratuite, sur une durée minimum de 9 mois, car le but est, comme l'explique Dominique Megrawa, le médecin à la SSNC, de procéder pas à pas pour mettre en place de nouvelles habitudes chez les jeunes.
Alors cet accompagnement, c'est une prise en charge multidisciplinaire avec plusieurs professionnels de santé, médecins, infirmières, diététiciennes, éducateurs sportifs et psychologues. Cet accompagnement, il se déroule avec des ateliers en petits groupes. Le premier entretien avec l'équipe dure une petite heure. On fait le point sur l'histoire de vie, les objectifs, les attendus de l'adolescent et de sa famille. Et puis pendant les vacances scolaires, on entame un cycle de 3 après-midi d'ateliers de groupe. Et ensuite, périodiquement, on reçoit, donc avec ces 5 éducateurs professionnels de santé, l'adolescent pour l'accompagner dans des changements de mode de vie.
Et l'inscription à ce programme, c'est une démarche qui vient souvent des parents. Cet après-midi, certaines familles ont profité des portes ouvertes pour se renseigner. C'était le cas de Christelle. Elle est venue avec sa fille âgée de 13 ans.
Ben moi, le fait de vouloir venir ici, c'est que j'ai un historique de personnes en obésité morbide. Et génétiquement, voilà, c'est familial. Et je l'ai voulu l'emmener aujourd'hui pour qu'elle ait affaire à des professionnels qui savent, au niveau de son âge, de lui expliquer par rapport à la nutrition, la condition physique, ce que moi, j'essaye d'inculquer en tant que maman. Mais bon, il y a toujours ce conflit entre les enfants et les parents. Pour qu'il y ait d'autres personnes, des professionnels qui sont formés pour ça, pour lui expliquer et peut-être lui faire prendre conscience que ben, c'est un travail qui commence maintenant à l'adolescence. Commencer déjà qu'elle ait une hygiène au niveau du sport, de l'alimentaire, qu'elle prenne conscience et qu'on lui apporte des bases, quoi.
Et pour se renseigner sur le programme à destination des jeunes de 12 à 18 ans, il suffit d'appeler le 26 90 61, le 26 90 61, ou bien d'envoyer un mail à l'adresse cedd@ass.nc.
La journée des droits des femmes, ce sera le 8 mars. Une action se tenait dès aujourd'hui au Medipôle. De nombreux intervenants étaient présents dans le Grand Hall pour échanger, informer. Un important réseau s'est donc mobilisé pour écouter, informer les femmes dans le besoin des associations médico-sociales. sociale, SOS Écoute, la DAVI, la SSNC, mais aussi la gendarmerie et la police, ou encore la province sud et le Sénat coutumier. Ils sont tous d'accord sur un point. C'était très important d'être au rendez-vous de cette journée dédiée aux femmes.
Je pense que c'est très important de rencontrer les femmes, mais pas que les femmes, hein, parce que la santé des femmes, la violence conjugale, etc., ça peut concerner aussi les hommes.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer auprès du public, du grand public, pour débanaliser justement les violences conjugales et que les personnes justement puissent rencontrer les dispositifs qui existent pour pouvoir s'en saisir.
Oui, c'est important pour le Sénat, pouvoir aider, pour donner un coup de pouce et aussi faire évoluer les mentalités et pour que la femme, surtout la femme kanak, puisse être épanouie comme toutes les autres femmes des autres communautés.
Tout simplement promouvoir les actions qui visent à prévenir les cancers féminins et particulièrement le cancer du col et le cancer du sein. On va répondre aux questions, on va expliquer aux femmes comment faire la palpation mammaire, comment on fait un frottis, pour justement un peu démystifier ces actes de santé et permettre aux femmes de ne pas avoir peur et au contraire de prendre leur santé à bras le corps.
La Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars. L'actualité dans la région Pacifique, alerte sur la Sunshine Coast en Australie. Elle est sous la menace directe du cyclone Alfred qui continue de se rapprocher des côtes. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le cyclone Alfred, pression au centre 981 hectopascal, est redevenu un système de deuxième catégorie sur une échelle de 5 la nuit dernière. Il se trouvait ce matin à environ 460 km à l'est de Brisbane et 430 km à l'est de la Gold Coast. Il se déplace désormais vers l'ouest à 10 km/h et génère sur son passage des vents de 120 km/h. S'il maintient cette trajectoire, il touchera terre entre la Gold Coast et la Sunshine Coast demain soir ou vendredi matin avec des pointes de vent à 155 km/h. Une alerte cyclonique est en cours sur 600 km entre Hervey Bay dans le Queensland et Grafton dans le New South Wales. L'érosion du littoral y est déjà considérable. Les rayons alimentation des grandes surfaces sont vides et plusieurs bateaux de plaisance mal arrimés ont été drossés à la côte par des vagues de 6 à 8 mètres. Des centres d'évacuation ouvriront ce soir et les habitants des régions concernées ont été exhortés à rester sur leur garde par le Premier ministre du Queensland, David Crisafulli. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h passé de 12 minutes, une dernière page de pub avant d'évoquer le lancement de Livre Mon Ami, le concours de littérature jeunesse.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants !
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 10h50 et à 15h50.
Eh ouais !
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Soir, Mickaël Juneski.
Le concours Livre Mon Ami change de formule. En 2025, après les événements survenus l'année dernière, l'association a décidé de ne pas organiser de vote cette année. Pour autant, plusieurs livres seront tout de même présentés, Léana Colombo.
Et oui, faute de budget suffisant, aucun nouveau livre n'a pu être commandé pour réaliser le concours en 2025. Il a donc été décidé de reprendre la sélection des livres proposés en 2023 et de les faire découvrir aux classes de CM2 et 6e et d'y ajouter le livre de la lauréate de l'an passé, Manon Fargeton, avec son livre « Les tisseurs de rêves ». Une formule un peu particulière, mais tout aussi riche en événements, explique Françoise Guépy, présidente de l'association Livre Mon Ami.
Les enfants, cette année, auront dans les classes de CM2 et 6e, 8 livres à lire, à partager, pour lesquels on a créé des tas de jeux, on a des tas de propositions d'activités autour de ces livres, pour quand même qu'il y ait de la diversité. Mais, à la différence des autres années, il n'y aura pas de vote. C'est plus une rencontre rencontres différentes avec les livres, parce que sur le site de Livre Mon Ami, il y aura pléthore d'activités, il y a un comité de lecture qui va se réunir, qui va proposer des tas d'activités différentes. On a vraiment proposé des outils, partagé des parcours de lecture, il peut y avoir des parcours autour des livres seulement sur l'humour, ou des parcours sur les émotions, donc on prend des extraits de chaque livre qui parlent d'une émotion par exemple. On a vraiment choisi d'autres entrées en fait.
Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà programmés, à commencer par l'invitation sur le territoire de la gagnante de l'année dernière, Manon Fargeton. Elle sera en Calédonie du 28 juillet au 8 août prochain.
Le Collège Baudoux célébrait la journée nationale du sport scolaire toute la matinée. 120 élèves de 6e et du dispositif Ulysse ont participé à des ateliers sur le thème « Vie, mon handicap ».
C'est au stade PLGC qu'avaient lieu ces ateliers. Objectif de la journée, promouvoir l'inclusion et le sport adapté aux personnes en situation de handicap au travers de différents sports. Les jeunes collégiens ont donc pu s'essayer à la course avec guide ou encore au lancer assis. Une matinée pédagogique où les élèves ont retenu beaucoup de choses. Écoutez.
J'ai appris qu'il y a différents sports pour les gens en situation de handicap et que les sports d'handicap, bah, c'est bien quand même.
D'être en fauteuil roulant ou d'être en situation de handicap, c'est pas toujours facile. Surtout que la course avec les yeux bandés, on avait très peur de tomber et il y en a qui sont tombés.
Il faut apprendre à respecter les handicapés parce que ben, on ne vit pas à leur place.
Et au niveau des ateliers, alors, comment c'était ce matin?
Il y en avait qui étaient amusants et d'autres fatigants, et on a aussi appris d'autres choses.
On a appris qu'il ne faut pas se manquer des handicapés parce qu'ils peuvent être de naissance, donc ça peut être compliqué pour eux de l'accepter. Mais comme on peut l'avoir, on a vu des sportifs qui sont très contents, qui vivent avec leur handicap et qui sont contents, enfin, qui peuvent bien le prendre. Par exemple, là, on a fait de la course à l'aveugle et donc tu dois vraiment être concentré à l'écoute, à ton camarade. Donc si c'est aussi un travail avec beaucoup d'écoute.
Parmi les autres ateliers proposés, des rencontres avec les athlètes handisports de haut niveau, Pierre Fairbank ou encore Delphine André.
Il est 18h passé de 16 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Mickaël. Alors cette nuit, des averses parfois fortes et orageuses persisteront sur la pointe sud et une grande moitié sud de la côte est. Ailleurs, nuages et belles éclaircies alterneront. Sur la pointe sud, les Loyautés et l'île des Pins, le vent de nord-est de 10 à 15 nœuds s'orientera au secteur est. Ailleurs, il restera variable faible. Les températures minimales resteront comprises entre 22 et 26 degrés avec des températures plus élevées. Ce sera sur l'est. Demain matin, le temps sera nuageux avec des averses sur l'est, à Pointe-Sud, Lifou et Ouvéa. Ailleurs, le soleil sera bien présent sur l'extrême sud et le sud des Loyautés. La lisée d'est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, les brises se lèveront et atteindront 5 à 10 nœuds en fin de matinée, Michael.